Alors, Béatrice Sievenard, je suis la déléguée régionale du comité pour la Fondation pour la Recherche Médicale des Hauts-de-France.
Voilà, donc la Fondation pour la Recherche Médicale, c'est une fondation très large en France qui a de grandes activités et puis des missions importantes. Comment on devient, pourquoi aussi on devient délégué de ce genre de structure ?
Eh bien, il y a 14 comités dans toute la France et j'avais envie de donner de mon temps pour justement faire connaître la Fondation et trouver des fonds. La Fondation s'occupe de toutes les pathologies. C'est ça le gros avantage, c'est que les chercheurs cherchent sur toutes les pathologies, aussi bien le cancer, sur toutes les maladies, les virus. Donc,
dans tous ces types de maladies, certains sont plus évocateurs dans l'esprit des personnes. Est-ce que la recherche est aidée en fonction d'une sorte d'applaudimètre ou est-ce qu'il y a une rationalité, une répartition harmonieuse, on va dire, des financements par rapport à cette recherche en France, selon les secteurs d'activité?
Alors, il y a 32 chercheurs qui font partie du comité scientifique et qui vérifient et qui regardent tous les projets des chercheurs. Et selon ils cherchent, si vous voulez, puis ils donnent à telle ou telle équipe de recherche selon la pathologie.
Donc chaque laboratoire, hein, puisqu'il y a beaucoup de laboratoires qui sont engagés, hein, à sa spécialité, est-ce qu'il existe des spécialités qui ne sont pas traitées par votre fondation ?
On traite toutes les pathologies.
Est-ce que vous jugez que la France est bien placée dans la recherche et de l'aide à la recherche médicale en général ?
Oui, oui, et surtout Lille. Vous avez quelques centres comme Lille, Toulouse, Lyon, qui sont des précurseurs dans pas mal de domaines.
Est-ce que Lille, par exemple, a une spécialité par rapport à Toulouse ou autre ? Est-ce qu'il y a des pôles, on va dire, un peu différents avec des spécificités ?
Non, non, non. Neurologie, cancer, diabète, obésité, ils traitent à peu près à l'Institut Pasteur, au CNRS, au CHU. Ils traitent toutes les pathologies.
Tous ces instituts, ces laboratoires de recherche, est-ce qu'ils se concertent ? Est-ce qu'ils s'entendent bien ? Je ne sais pas, j'imagine que quand il y a des financements, chacun essaye un peu de tirer la couverture à lui ?
Non, 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 non. De toute façon, tout est publié sur des revues professionnelles. Donc, chacun voit un petit peu l'évolution et profite de cette évolution des recherches. Donc, il n'y a pas du tout de compétition, on va dire, ni de concurrence.
Quels sont les domaines où on a encore du mal, pas à chercher forcément, mais à trouver ?
Alors, c'est les virus émergents, le Covid et tous les cancers qui sont rares, comme le pancréas. Ça, c'est encore un cancer, malheureusement, un crabe, où il y a énormément de décès.
Toutes ces maladies dont vous parlez, hein, notamment les cancers, ça effraie les gens. Est-ce que pour les donateurs, il faut avoir déjà une certaine sensibilisation à ces maladies du fait de la maladie d'un proche ou personnel d'ailleurs, hein, pour commencer à s'intéresser à cet appel aux dons que vous faites, hein?
Non, 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 vous avez tout azimut. Et d'ailleurs, nous avons en 2024 à peu près 2% de plus de dons par rapport aux autres années. Non, tout le monde est sensibilisé. Je pense que la santé, c'est l'affaire de tous. Et tout le monde est sensible à être en bonne santé.
Donc dans la santé, il y a, on va dire, à la fin, il y a se soigner, donc trouver des médicaments, des traitements, mais en amont, il y a la prévention. Comment vous ressentez les deux choses ?
La prévention, ce qui est un peu dommage, c'est que la France est un beau pays et on peut faire beaucoup d'examens en prévention. Et malheureusement, quand on voit pour la mammographie, c'est une femme sur deux qui fait ce genre d'examen. C'est dommage parce qu'un cancer qui est pris très vite a beaucoup de chances de guérir.
Pourtant, il y a des sollicitations, on va dire, il y a des sensibilisations, il y a des courriers directs qui sont envoyés à toutes les femmes, hein, qui sont concernées.
Oui, oui, oui. Mais bon, est-ce qu'elles ont peur ? Elles se disent, j'ai pas mal, donc je ne vais pas faire un examen au cas où on trouverait quelque chose. On ne sait pas, mais bon, c'est vrai que la prévention existe en France, on a cette chance-là, mais on ne profite pas assez.
Ces personnes qui hésitent sont peut-être effrayées par, pas seulement la technique de l'examen, mais par les conséquences, les résultats tout au moins. Et après, elles imaginent que si elles ont une maladie grave, elles vont entrer dans un cycle un peu infernal aussi.
Tout à fait. C'est un peu, peut-être pour ça que bon, elle préfère faire l'autruche et puis ne pas se faire diagnostiquer. C'est regrettable.
Vu les campagnes de communication quand même qui existent, hein, elles sont assez nombreuses, on devrait quand même convaincre, notamment en partant peut-être des jeunes femmes.
Ben non, ça n'évolue pas. Au contraire, je trouve que la prévention, depuis quelques années, il y en a beaucoup moins. Avant, on était à 50-60% des femmes qui se faisaient diagnostiqué. Maintenant, c'est 43-44%. Donc, il y a quand même... Alors que le cancer du sein, bon, il y en a de, je ne vais pas dire de plus en plus, mais quand même. Et on peut le guérir plus, très facilement.
Quand on prend le système Amélie, hein, enfin, vous connaissez, hein, Amélie incite vraiment. Hein.
Oui, oui, oui. On reçoit une convocation tous les deux ans, à partir d'un certain âge. Et bon, je ne comprends pas, mais bon. C'est dommage parce que bon, on a un formidable service de santé en France et tout le monde n'a pas la chance. Vous allez dans d'autres pays comme ne serait-ce le Canada ou les États-Unis, il n'y a pas ce genre de service, quoi. Donc c'est regrettable.
Non seulement il n'y a pas ce service, ou s'il y en a, il est moins remboursé. Enfin, c'est compliqué parfois de se soigner dans certains pays.
Oui, tout à fait. Ma fille est partie faire des études au Canada. Et elle me disait que c'était incroyable, quoi. S'ils n'avaient pas de mutuelle, il n'y a pas de sécurité sociale, donc c'est un genre de mutuelle. Et elle me dit que c'est très peu remboursé, sauf pour des interventions chirurgicales. Mais si vous avez la grippe ou un rhume, des médicaments, ça, ça ne l'est pas.
Souvent, on a plusieurs personnes dans un ensemble hospitalier, par exemple. Il y a des gens qui préparent, il y a des gens qui viennent pour faire les radios, etc. Hein. C'est vraiment une chaîne complexe. Et à la fin, il y a les résultats. Alors, par exemple, on vous dit, est-ce que vous voulez venir chercher vos résultats ou qu'on vous les envoie?
Oui, bah, les envoyer, bah, vous n'avez pas trop d'explications. Quand on va les chercher, on peut demander éventuellement des renseignements. Donc, c'est bien, quoi.
On peut peut-être demander des renseignements, mais souvent, on va voir après son médecin traitant.
Bien sûr. Mais au point de départ, quand on a les résultats d'une analyse médicale et quand on voit en gros plan, quelquefois, des chiffres, on se dit, bon, bah, là, c'est pas bon, qu'est-ce que ça signifie, quoi.
Même le langage utilisé est assez complexe.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a aussi, bon, je n'ai rien contre les chirurgiens et les médecins, il y a aussi le côté humain quand ils annoncent malheureusement des mauvaises nouvelles. Ça, en France, je trouve que ça manque un petit peu d'humanité.
Donc il y a cette nouvelle qui est forcément au départ... Une nouvelle qui peut être bonne ou mauvaise pour le patient ou la patiente. Hein. Et après, il y a la famille. Alors, comment se fait la relation à la famille quand on apprend une nouvelle qui n'est pas excellente?
Moi, j'ai fait malheureusement l'expérience avec mon mari. Ça a été quand même une douche froide. Une douche froide, j'ai appris... Je l'avais sollicité pour un rendez-vous parce qu'on savait que bon, il avait un cancer. Et... Je devais avoir un rendez-vous, je ne l'ai pas eu dans la journée. Et le soir, ben, j'ai insisté auprès du secrétariat pour avoir les résultats. Et bon, il est venu et j'étais devant l'ascenseur dans le hall d'entrée. Et il m'a dit, bah, écoutez madame, mauvaise nouvelle, 2-3 mois encore à vivre, bon courage. Voilà comment on m'annonçait que mon mari n'avait plus que pour 2-3 mois à vivre. Et j'avoue que ça, bon, j'en ai parlé à la fondation, il y a quand même un gros travail à faire. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, attention, mais ça, c'est dur.
Il existe un métier qui s'appelle psychologue. Oui. Est-ce qu'ils sont mobilisables éventuellement pour accompagner les personnes quand on leur annonce une nouvelle de ce type?
Oui, mais bon, ils sont tellement sollicités. Moi, si vous voulez, Moi, j'en ai pris, j'ai pris mon courage à deux mains, que ça a été, mais c'est vrai que c'est quand même très, très dur. Je trouve que là, ça manque quand même de pédagogie. Il faut quand même mieux accompagner, mieux expliquer, parce qu'ils peuvent aussi se tromper. En 2-3 mois, ça peut être 4-5 mois. Et c'est vrai qu'après, c'est un peu le compte à rebours. Hein.
Donc, le fait d'entrer à l'hôpital après un diagnostic, hein, pas forcément d'avoir le diagnostic et attendre par la suite comment évoluent les choses, mais d'entrer en traitement, c'est sans doute peut-être un aller sans retour.
Oui, oui. Surtout quand c'est une grosse pathologie et qu'on sait qu'un cancer du pancréas, vous avez 2-3% de réussite pour vous en sortir. Oui, c'est traumatisant, traumatisant.
Voilà, donc c'est vrai que toutes les vies ont une fin. Alors, ce n'est pas la meilleure des fins souhaitables. Est-ce qu'il y en a qui sont souhaitables? C'est un peu l'arbitraire, on va dire, hein, le fait d'avoir une mort qui s'annonce par un signe ou par un diagnostic, etc. Il n'y a rien d'enviable en termes de mort, quand même.
Non, non, non. Peut-être la plus belle mort, c'est une crise cardiaque, je ne sais pas. Ou subitement, vous décédez, donc peut-être, je ne sais pas.
Alors, dans notre région, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire pour présenter les Hauts-de-France dans ce domaine de la recherche et des avancées par rapport à d'autres régions? Est-ce qu'il y a une prise en compte de certains publics qu'il n'y a pas forcément ailleurs?
Non, non, non. Bon, on avance tous de la même façon, puisque tous les renseignements, toutes les synthèses se sont regroupées. Donc, à Toulouse comme à Lille, nous sommes exactement pareil, quoi.
On dit parfois que il y a plus de gens en difficulté de santé en Hauts-de-France que dans d'autres régions. Est-ce qu'il y a des décalages d'une région à l'autre ou bien on retrouve à peu près les mêmes constats?
Non, pas ma connaissance. Pas ma connaissance.
Voilà, donc c'est un faux bruit.
Oui, oui, oui. Oui. Non, c'est pas parce que ce sont les Hauts-de-France. Pourquoi? Parce que c'est une région plus pauvre et que les gens ne peuvent pas se soigner, je ne sais pas. Non, au contraire, on a de très très bonnes équipes. Vous avez des équipes formidables à Lille, hein, qui sont d'ailleurs récompensées par des prix régulièrement. Non, non, on est aussi bien soigné à Lille, il n'y a pas trop de différence.
Voilà, bien, on souhaite que ça continue, parce que quand on voit un peu les moyens qui baissent, qui sont annoncés dans plein de domaines, hein, avec les problèmes de dette de l'État et puis de guerre, etc. On souhaite bien sûr que la recherche continue à être soutenue. Et bien sûr, vous faites appel à la population.
À la générosité du public, effectivement. On a reçu à peu près 2023, parce que je n'ai pas les chiffres 2024, 49 millions. Sur 396 projets ont été financés. Donc c'est quand même très très intéressant, quoi.
Alors j'ai pu voir sur le site, hein, on rappellera le nom du site, mais j'ai pu voir la destination, chaque laboratoire, les gens qui en sont responsables. C'est assez détaillé. Hein. Donc c'est quand même intéressant d'avoir une idée de la structuration et puis d'où atterrissent ces financements.
Oui. Il y a beaucoup de transparence. Hein. Il y a de toute façon, nous sommes reconnus la fondation d'utilité publique et nous avons aussi, nous sommes labellisés pour le don en confiance. Alors c'est un organisme d'agrément et de contrôle des associations qui ont justement de l'argent, qui profitent de la générosité du public. Donc tout est transparent. Si vous faites un don, vous pouvez savoir exactement où va votre don.
Donc le site, on peut peut-être le rappeler?
Alors c'est le don en confiance. Et c'est la Fondation pour la recherche médicale qui est d'utilité publique et labellisée don de confiance. Donc cet organisme, vous pouvez voir où va votre don. Fondation pour la recherche médicale, FRM.
Voilà, donc en dehors des dons qu'on peut faire à partir du site web, bien sûr, on peut aussi participer à des animations, à des sensibilisations, donc en tant que bénévole, bien sûr.
Oui, on peut créer des événements, c'est aussi bien des matchs de foot, de basket, des courses cyclistes, faire une chorale. L'essentiel, c'est de récolter de l'argent et puis pour pouvoir soutenir la recherche. C'est ça qui est le plus important.
Ces événements que vous organisez en région, on peut peut-être en donner quelques exemples?
Oui, vous avez le Ch'ti Tour des Porsche. Alors ça, c'est pas moi qui l'organise, mais ce sont des partenaires. C'est 400 propriétaires de Porsche qui vont à Ardelot et qui font deux rallyes. Donc, ils payent leur place et puis ils payent aussi pour le repas. Donc, ils participent, ils donnent une partie de leurs bénéfices. Je vais avoir aussi à Cambrai une manifestation. Alors, c'est du football, c'est des vétérans. C'est un repas, barbecue, c'est une tombola avec la participation des commerçants, justement. Ce sont des associations qui veulent s'investir. Et puis, vous avez aussi pas mal de jeunes aussi qui font des événements. Ça peut être une pièce de théâtre, donc ils jouent et la recette, ils la donnent pour la fondation. Ça peut être un orchestre, enfin tout.
Il y a un programme qui est publié ?
Je vais le commencer puisque moi j'ai repris il y a 2 ans, hein, puisque avant j'étais en région centre, à Orléans, je m'en occupais. Et là, j'ai beaucoup de choses à faire en tant que bénévole, donc je vais faire un programme. Et sur la fondation, de toute façon, sur le site, vous pouvez voir dans chaque région ce qui se passe.